développement de connaissances. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Maneleo, c'est l'heure du journal.
Nous sommes les derniers jours de l'an 2024, soit le 31 décembre. Il est 6h15. Place au journal sur Radio Maneleo. Dans cette édition, nous serons à Fizi où 74 300 personnes ont fui leur domicile suite au récent affrontement entre les FARDC et les troupes rebelles Turuaneo Ngoumino. Depuis le 25 décembre courant, l'administrateur du territoire de Fizi qui livre l'information rassure néanmoins que les FARDC tiennent bon sur toutes les lignes de front. Dans la deuxième partie de cette édition, nous parlerons de la rétrospective annuelle dans les domaines de la santé. L'année 2024 a été dominée par la maladie des monkeypox qui a touché 19 000 personnes selon les statistiques de la Division provinciale de la santé. Nous y reviendrons dans ce journal. Voilà tout pour les sommaires. Hélène Boudjiré, c'est mon nom. Émile Mouindo sur la mise en onde. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez.
Chaque jour, elle se mobilise pour offrir à ses auditeurs et auditrices des informations à temps réel. Notre principale détermination, c'est de vous servir. Nous, c'est la Radio Maneleo. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
Vous l'avez suivi en titre, 74 300 personnes ont fui leur domicile suite aux récents affrontements qui ont opposé les FARDC aux troupes rebelles Turuaneo Ngoumino aux alentours de Minembwe et dans les territoires de Fizi. Au sud que vous, depuis le 25 décembre dernier, l'annonce de l'administrateur du territoire de Fizi, Sami Kalonji, dans un entretien lundi 30 décembre avec Radio Maneleo, expédie qu'elle nous en dit plus.
Il ajoute que ses déplacés ont fui les combats qui se sont intensifiés sur plusieurs villages aux alentours de Minembwe, comme Runundu, Kisoki, Madegu Centre et Kiziba. Sami Kalonji précise que ses déplacés, estimés à 74 300, se sont dirigés vers d'autres villages, comme Mamuliza, Kabingo Kakenge et Bakamata, où ils passent la nuit à la Belle Étoile, d'où le plaidoyer pour une assistance des humanitaires. L'administrateur du territoire de Fizi, Sami Kalonji, est joint au téléphone.
6600 sont venus des villages de l'axe Minembwe et 8300 sont venus dans l'axe Ilundu. Tous se déplacent et se dirigent principalement vers Muliza, Kakenge, Bakamata, Kakangara et Kabingo. Ils passent nuit dehors sous la Belle Étoile. Et le territoire de Fizi étant un territoire essentiellement humanitaire, demande aux agences humanitaires et aux ONG de développement qui œuvrent dans les territoires de Fizi d'intervenir pour apporter assistance à toutes ces personnes déplacées qui sont démunies et dépourvues de tout.
Entre-temps, les FARDC tiennent bon sur toutes les lignes de front et ont déjoué une attaque de grande envergure orchestrée par les éléments Ngoumino Turuaneo dans le but de prendre l'aéroport de Minembwe, a déclaré l'autorité territoriale de Fizi.
Entre-temps, les élèves membres de clubs d'épée venus des territoires et de la ville de Bukavu ayant pris part au peace camping organisé par groupe Jérémy la semaine dernière à Kamanyola s'engagent à devenir des ambassadeurs de la paix et lutter contre les antivaleurs qui bloquent la cohésion sociale. Ces assises ont permis à ces enfants d'intérioriser des bonnes valeurs pour la paix et la cohabitation pacifique. De Kamanyola, notre correspondant Wendo Joé nous fait le point.
Pendant 3 jours, plus d'une centaine d'élèves venus des territoires et de la ville de Bukavu ont réfléchi sur les rôles et la place de la jeunesse dans la consolidation de la paix, la cohésion sociale et prévention des discours de haine à l'occasion du peace camping organisé par le groupe Jérémy. Sentiment de satisfaction exprimé par ces jeunes faisant d'eux des ambassadeurs de la paix en province du Sud Kivu et en RDC.
La compassion qui était cachée en moi s'est plutôt réveillée. La meilleure des choses, d'abord la sensibilisation.
C'est un bon cadre, vraiment j'ai aimé. Surtout on nous a conscientisé, nous en tant que jeunes, de prendre conscience, de savoir que nous devons travailler pour notre pays. Nous en tant que jeunes, nous devons restaurer la paix et nous devons être les ambassadeurs de la paix.
Pour Madame Nene Bintou, présidente du bureau de coordination de la société civile au Sud Sud-Kivu, il faut plutôt investir dans la jeunesse pour espérer bâtir un pays prospère et plus fort.
Les jeunes représentent une grande partie de la population congolaise, même si elle est souvent marginalisée, et eux-mêmes sont conscients qu'ils peuvent aussi apporter le changement dans ces pays.
Plusieurs autres thèmes ont été traités pendant ces trois jours, notamment la jeunesse et l'usage responsable des réseaux sociaux, la jeunesse et la consolidation de la paix et le vivre ensemble, ainsi que les facteurs contraignant la jeunesse à recourir au discours de la haine. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement de la cohésion sociale avec l'appui de la coopération suisse et s'est tenue au lycée Wima dans la ville de Bukavu.
Merci Wendo Joé. Toute constitution étant une œuvre humaine, elle peut être évaluée ou modifiée en tenant compte des imperfections y décelées. C'est en ces termes que le sénateur Norbert Basengezi Katintima s'est adressé au cours d'un meeting populaire organisé lundi 30 décembre 2024 à l'intention des cadres, militants et sympathisants de son parti politique ANCE au niveau de Bouindi en présence de plusieurs autres habitants. En ce qui concerne la révision et ou changement de la constitution, il estime que cela devrait se faire de manière consensuelle pour que les réformes engagent toutes les parties, étant donné que l'actuelle constitution prévoit en elle-même les mécanismes de sa modification. Le sénateur Norbert Basengezi indique que son parti est prêt à apporter sa contribution à la commission annoncée par le président de la République en ce qui concerne les réformes constitutionnelles. Par la même occasion, il a présenté et remis un ouvrage conçu par son parti et qui contient les motifs de la révision au changement de la Constitution et proposant ainsi les réformes électorales au pays avec plusieurs aléas dont la CENI en elle-même, les fichiers électoraux, la question du genre et celle de la nationalité, les systèmes électoraux et les modes du scrutin. Norbert Basengezi Katintima a rappelé que la population est souveraine primaire et on devrait la laisser faire les choix à travers un référendum. On écoute un extrait de sa communication.
On a changé l'article 14 de la Constitution.
C'est par exemple changer l'article 14, une façon de promouvoir la discrimination positive. Nous faisons en sorte que les femmes aient un pourcentage de représentation au Sénat comme à l'Assemblée nationale et non 10%. Nous voulons que toutes les femmes s'approprient ces combats de l'ANCE. Aux élections de 2006, nous avons découvert plusieurs personnes qui avaient la double nationalité. L'Assemblée nationale a accordé un moratoire de 3 ans pour arranger leur situation. Jusqu'à ces jours, ce moratoire n'a jamais été levé. Nous demandons que l'Assemblée nationale se prononce. Au final, c'est la population qui décide.
C'est la population qui décide et rien que la population.
En sa qualité du président du caucus des sénateurs élus du Sud-Kivu, Katintima a présenté aux participants les plaidoyers menés par les sénateurs du Sud-Kivu et c'est que lui-même a présenté au Sénat durant la session de septembre. Vous suivez Radio Mandela, il est 6h21, la suite de cette édition, c'est juste après cette courte pause.
Suivez Radio Maendeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaendeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maendeleo. Radio Maendeleo, c'est vous.
Chercher des solutions locales aux problèmes locaux qui se posent dans les groupements des Moudaka, capitaliser les forces et les opportunités qu'offrent ces groupements et aussi rester en collaboration étroite avec la diaspora pour booster son développement, c'est parmi les recommandations issues d'un dialogue social organisé le week-end à Moudaka. Ce dialogue social, organisé sous l'égide du chef des groupements, a réuni la crème intellectuelle constituée des fils et filles vivant à Moudaka et ailleurs, la société civile et les notables autour des questions de développement de cette partie des Kabare. Au terme des échanges, il a été également recommandé de constituer une union solide au sein de la communauté, la tenue régulière de ce genre de dialogue social inclusif afin de rapprocher les uns les autres et trouver ensemble des solutions aux problèmes qui s'y posent. Parmi les problèmes posés figurent l'accès à l'eau potable, l'absence d'un plan d'urbanisation, la multiplicité des taxes et la justice populaire. À l'issue de ces échanges, les participants s'engagent à mettre en pratique les recommandations, chacun en fonction de ses compétences. L'un d'eux, le docteur Charles Kachungunu Matabaro, promet sa contribution pour l'émergence de ces groupements.
Vous savez, la ville de Bukavu devient de plus en plus encombrée. Et visiblement, le groupement le plus proche de la ville et qui offre beaucoup d'autres potentialités, c'est Modak. Nous nous sommes mis à réfléchir aujourd'hui autour des enjeux concernant la gestion des terres, concernant la gestion de l'eau, concernant la gestion des infrastructures routières, concernant la gestion des infrastructures sanitaires, dans tous les secteurs finalement. Nous réunir très prochainement, considérant la journée d'aujourd'hui comme étant un pré-dialogue. Et donc on va se retrouver prochainement pour faire un véritable dialogue qui sera beaucoup plus élargi à d'autres membres du groupement qui n'ont pas participé à la réunion d'aujourd'hui et qui pourront apporter certainement des idées.
Cette activité s'est tenue dans la salle du grand séminaire Théologa de Mouressa en présence de plusieurs personnalités et experts en différents domaines scientifiques qui ont exposé sur différentes thématiques sous la modération du chef des groupements Chikwanine Rudaindwa Bissimwa. Et faire connaître les contenus de la loi portant protection des peuples autochtones pygmées en RDC à une catégorie des personnes avant sa vulgarisation proprement dite, c'est l'objectif d'un atelier de pré-vulgarisation organisé lundi 30 décembre par la dynamique des groupes des peuples autochtones en faveur de certaines organisations qui accompagnent les peuples autochtones, les autorités provinciales et acteurs de la société civile. Pour Bernard Mugaru Kampuruta, un des anciens chefs des peuples autochtones au Sud Kivu, les peuples autochtones sont souvent victimes des discriminations et marginalisations qui font d'eux un groupe particulièrement vulnérable. Il ajoute que cette loi, adoptée depuis juillet 2022 à l'Assemblée nationale, contient des propositions en termes de protection de cette catégorie des personnes, d'où la nécessité de sa vulgarisation. Bernard Mogaruka dans cet élément.
Nous sommes encore à une phase de pré-vulgarisation. La vulgarisation n'est pas encore là. La loi est déjà sortie. Le moment n'est pas encore opportun parce que ça demande des moyens, ça demande des temps, ça demande des efforts. Tous ces moyens qui ne sont pas encore réunis. Que cette loi puisse promouvoir les droits à la citoyenneté pour les peuples autochtones pygmées, notamment à travers l'octroi des documents de l'état civil. Mais également, et cette loi a aussi un autre objectif, de protéger les peuples autochtones face aux violences physiques qu'ils subissent depuis des années.
Parmi les objectifs de cette loi, on y retrouve également la promotion de l'accès des peuples autochtones à des métiers et emplois mieux rémunérés et la protection contre les discriminations auxquelles ils sont exposés. À cela s'ajoute la promotion du droit des peuples autochtones à un modèle de développement qui correspond à leurs aspirations. Et développer les activités des microcrédits au profit des membres à installer une usine de production d'eau au Sud Kivu en 2025. Ce sont entre autres perspectives que se fixe la SBL Yakeshadjou à Mungu. Les membres de cette organisation ont échangé autour de ces deux projets. Et tant d'autres, dimanche 29 décembre, au cours de leur assemblée générale ordinaire, celle-ci a consacré l'évaluation des activités organisées le long de l'année 2024. Le bilan a été jugé recevable à la satisfaction des membres. Cependant, selon Kana Kamwami, membre de la commission des contrôles, malgré ce bilan, l'organisation Akeshadjou à Mungu entend se rendre davantage utile en organisant des activités socio-économiques profitables à tous. Kana Kamwami en parle.
Les objectifs d'avenir sont là, donc il y a les microfinances qui doivent continuer, donc des petits crédits qu'on donne aux membres, et après ça il y a des activités de développement, il y a une usine en eau que nous devons mettre en action et au courant de l'année 2025.
Et pour y arriver, comment allez-vous procéder?
Pour y arriver, nous avons eu l'aide d'un membre de notre association qui nous avait donné une parcelle à Nyantende, et nous avons donc essayé de parler avec lui. Il nous a donné encore une autre partie et c'est là où nous programmons construire quelque chose. Donc l'usine sera logée là-bas. Je présente tous les vœux, le meilleur pour tous les membres qui sont là, les membres de l'association Yakeshadjou à Mungu. Je les encourage aussi à continuer parce que l'année 2025, c'est une année où nous nous sommes fixés des objectifs qu'il faut obtenir à tout prix.
Pour sa part, le président de l'organisation Akeshadjou à Mungu, Irada Mparani, a invité tous les membres à participer activement à la vie de l'organisation, essayer de rappeler que cette organisation sans but lucratif regroupe des personnalités de diverses tendances avec l'idée d'organiser des activités sociales au profit des membres. Nous allons maintenant parler des cultures et arts avec vous, Expédie Kialou. Créer une harmonie entre agents et assujettis, mais aussi initier des réformes pour améliorer les systèmes du travail au sein du service des cultures, arts et patrimoine au sud chez vous, c'est parmi les objectifs d'un atelier de renforcement des capacités administratives et fiscales organisé en faveur des cadres et agents de ces services à Kavumu dans les groupements de Bougoré. Un territoire des Kabare.
Le chef de division provinciale de la culture, art et patrimoine du Sud Kivu explique que cette activité est organisée en vue de renforcer les capacités des agents qui sont sur terrain afin qu'ils arrivent à mobiliser et maximiser les recettes de l'État à Kabare. Après avoir expliqué les méthodes, Bigana Ngwa Kikuni Bizos a insisté sur la collaboration entre agents, assujettis, autorités locales et autres services de l'État pour réussir leur mission avant de revenir sur le comportement des agents et la maîtrise des textes légaux qui régissent leurs services.
Je suis aujourd'hui à Kabare pour venir renforcer les capacités administratives et fiscales des agents et aussi assurer une meilleure collaboration et renforcer la communication entre la division et les services ici présents. Informer les agents sur le cadre organique de mon secteur. Assurer aussi une meilleure collaboration entre les agents et d'autres services de l'État. Renforcer aussi la collaboration entre les agents eux-mêmes et renforcer aussi les systèmes de recouvrement des taxes.
De leur côté, les participants ont remercié la division provinciale de la culture, art et patrimoine pour ce séminaire ainsi que le ministère de Titel qui ont organisé ces assises. L'un d'eux, Léonidas Tabaro, président de l'ancien civil du territoire de Kabare, en parle.
Aux assujettis de Kabare, nous les encourageons à payer réellement les taxes et donc nous allons aussi édifier, sensibiliser nos artisans, artistes et autres de payer les taxes dues à cette division ou à ces services-là de culture et art.
Organisée grâce à l'appui technique et financier de la coopération suisse, cette activité s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives du territoire de Kabare et de la société civile.
Direction territoire de Kaleek sera bientôt dotée d'une salle polyvalente pouvant servir des cadres pour différentes rencontres et autres visites des personnalités dans les cadres du développement de cette entité de concentrer la pose de la première pierre, marquant le début des travaux de réhabilitation de cet ancien bâtiment de 21 mètres sur 12 qui jadis servait de guest house type belge longtemps abandonné a eu lieu lundi 30 décembre au chef-lieu du territoire de Calais. L'administrateur du territoire de Calais, maître Thomas Bakenga, explique que ces travaux dont la durée n'a pas été déterminée sont financés entièrement par le gouvernement provincial à hauteur de 30 000 dollars avec la main d'œuvre locale. Un comité de suivi local de Kalehe. Il ajoute que ce bâtiment va aider à résoudre les problèmes de la population en lui dotant des espaces pour les célébrations des mariages, conférences, réunions et autres activités pour l'épanouissement de la jeunesse. Maître Thomas Bakenga.
Nous avons trouvé que Kalehe reçoit des visiteurs de tous les jours, vu que nous connaissons des situations inattendues, des noyades, des incendies, des catastrophes de tous les jours. Il y a des fois que les visiteurs arrivent, ils se disent, on réunit la population, on discute où. Il y a des questions qui nécessitent qu'il y ait des tribunes populaires. Nous avons toujours des recommandations à ce que le programme de l'ESPER, l'ensemble pour la paix à l'Est et la RDC, où nous devons faire des consultations populaires, écouter la population, qu'elle nous dise ce qu'elle pense et qu'est-ce qu'on peut faire. Nous avons un problème de espace, de cadre pour échanger avec la population. Nous avons quand même réfléchi que la construction d'une grande salle au niveau du territoire, qu'il y aura une capacité de 21 mètres sur 12, pourrait recevoir plus de 150 personnes. Et au moins, il doit y avoir quand même quelques pièces et on doit aussi installer les toilettes qui soient plus adaptées à la modernité.
Ce bâtiment aura aussi une clôture d'au moins 180 mètres et sa réhabilitation est l'une des priorités soulevées par les habitants des Kalehe. Après que le gouverneur de province, Jean-Jacques Porossi, ait doté des fonds aux entités déconcentrées pour la réalisation de quelques projets de développement en faveur de la population. Il est 6h32 minutes dans les studios de Radio Mandela. Présent, nous allons prendre la rétrospective annuelle.
Chaque chapitre du livre est une histoire avec multiples facettes. Du premier fait marquant, le mois de janvier 2024, jusqu'à l'événement du 31 décembre 2024, le projecteur braqué sur Bukavu, le Sud Kivu, la République démocratique du Congo et tout le monde entier. Radio Maendelo vous propose la rétrospective de l'année. Le fait saillant de l'actualité diversifiée de l'année 2024 en ce qui concerne l'insécurité, la justice, les droits humains, les accidents et catastrophes naturelles, la santé, le service étatique, l'Assemblée provinciale, l'évolution politique, les ONG, le FAM, le média, le sport et l'actualité internationale, les tout dans la rétrospective de l'année. Du 25 janvier 2024 au 6 janvier 2025, le matin à 6h30 et les soirs à 18h30, en pas en arrière, Radio Mahendeleo vous propose la rétrospective de l'année. Radio Mahendeleo, votre regard sur le monde et l'actualité.
L'actualité dans les secteurs sanitaires a été dominée par la maladie des monkeypox, appelée encore variole des singes, qui a fait des morts avant d'être maîtrisée. Les condensés de ce qui a dominé ces secteurs en 2024, c'est dans cette rétrospective annuelle vous proposée par Radio Mahendeleo. Messieurs et dames, bienvenue pour suivre notre rétrospective annuelle consacrée à la santé. Hélène Boudjeriri, c'est mon nom. En janvier, le 15 janvier, toute personne voyageur détenant un passeport est dans l'obligation de se munir de sa carte jaune pour traverser à la frontière, peu importe sa destination. Précision de l'inspecteur technique du programme de l'hygiène aux frontières, le docteur Niembo Faliala, aimé lors de l'entretien accordé à Radio Mahendeleo. Docteur Niembo renseigne que la carte jaune est exigée aux personnes détenant les passeports pour que les services se rassurent que la personne a reçu le vaccin ou non pour qu'il ne contamine d'autres personnes et cela à l'entrée comme à la sortie de la frontière. Le 26 janvier, des pasteurs du conseil des pasteurs de la ville de Bukavu, membres de l'église du Christ au Congo SCC, sont sensibilisés sur la dangerosité de la lèpre en prélude de la journée mondiale de la lutte contre la lèpre qui est célébrée le 28 janvier de l'année. Organisée par la mission évangélique contre la lèpre en RDC en collaboration avec la Division provinciale de la santé au Sud Kivu. Cette activité a pour objectif d'inviter ces leaders religieux à intensifier la sensibilisation dans leurs églises respectives, car la lèpre est une maladie dangereuse et infectieuse, d'où l'intensification de la sensibilisation dans la communauté. En février, le 14 février, le docteur Jonas Mousseme, chargé du service de l'optométrie à Edvision, renseigne que la conjonctivite virale, communément appelée Apollo, est une maladie curative et peut être évité si les mesures préventives sont respectées. Ces mesures sont notamment le lavage régulier des mains, ne pas se frotter les yeux, ainsi qu'éviter de s'approcher des personnes infectées par cette maladie, car elle est contagieuse. Il ajoute que cette maladie est causée par un virus, une allergie et ou des bactéries, d'où l'importance de protéger les yeux. Il invite les personnes souffrant de la conjonctivite de se rendre à l'hôpital pour bénéficier des soins et à ceux qui ne l'ont pas de respecter les mesures hygiéniques. Le 29 février, l'organisation Assistance aux enfants abandonnés orphelins, AEO en sigle, lance un projet intitulé Amélioration de la santé des réfugiés et des populations d'accueil dans les zones de santé de Nyantende et Kanyola au Sud Kivu. Docteur Naomi Mulamba, coordinatrice médicale et chargée des programmes au sein de l'organisation AEO, renseigne que ce projet va intervenir dans les secteurs de la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition ainsi que la protection et résolution des conflits. Dans les volets santé par exemple, deux bâtiments de maternité et un bâtiment des centres de santé seront construits à Lutunkulu et Maziba dans la zone de santé de Kanyola, en territoire de Walungu. Le 4 mars, depuis le début du mois de février 2024, la province du Sud Kivu a déjà enregistré plus de 2000 cas de la maladie de conjonctivite, communément appelée Apollo. Précision du docteur Claude Baïziré, chargé des communications à la division provinciale de la santé lors d'un entretien avec Radio Mahendeleo. Claude Baïziré renseigne que certaines zones de santé à l'intérieur de la province enregistrent déjà des cas, mais plus c'est la ville de Bukavu qui enregistre le plus grand nombre de malades. Toujours en mars, cette fois le 10 mars, les infirmiers membres de l'Union nationale des infirmiers et infirmières du Congo demandent l'implication de la ministre provinciale de la santé pour que certains parmi eux qui n'ont pas reçu les paiements du mois de mai pour les comptes du second semestre 2023 soient remis dans leurs droits. Dans une note adressée à la ministre et copie réservée à Radio Mahendeleo, les signataires renseignent que les agents non bancarisés se sont vus privés les mois de mai et d'ignorer la cause. Selon l'esprit de cette correspondance, toutes les tentatives pour avoir des explications claires et précises quant à ces n'ont toujours pas abouti, parce que tous les concernés disent qu'ils n'en savent rien. À cet effet, ils demandent l'implication de la ministre provinciale de la Santé pour qu'ils soient remis dans leurs droits. Ils demandent d'accélérer les démarches de la bancarisation de leurs collègues. Le 14 mai, les chargés de l'optométrie à la clinique Edvision, une structure qui s'occupe des soins des yeux dans la ville de Bukavu, recommandent à la population de se rendre régulièrement dans des structures spécialisées. Dans les soins des yeux, ceci pour avoir l'état de santé de leurs yeux et éviter la maladie. Maladie de glaucome. Étant une maladie de l'œil la plus dangereuse, qui ne présente aucun signe, moins encore une douleur particulière, mais qui peut rendre aveugle en un clin d'œil, recommandation formulée en marge de la Semaine mondiale du glaucome décrétée par l'Organisation mondiale de la santé. Il précise que le glaucome est une maladie de l'œil associée à la destruction progressive du nerf optique, le plus souvent causée par une pression trop importante à l'intérieur de l'œil. Le 19 mars, les habitants de Mugog dans les groupements de l'Oural, en territoire de Walungu en particulier, et du Sud Kivu en général, sont appelés à se rendre régulièrement dans des structures oculaires pour des consultations afin de se protéger contre les glaucomes. L'appel lancé par l'hôpital provincial général de référence de Bukavu lors d'une descente effectuée sur place en marge de la célébration de la Semaine mondiale du glaucome. Décrétée chaque année par l'Organisation mondiale de la santé OMS, celle-ci est allée du 10 au 16 mars 2024. Les responsables du service de l'ophtalmologie à l'hôpital provincial général des références de Bukavu, Dr Deogracias Ngoma Basedeke, explique qu'à Mugogo, sa structure a organisé une campagne de sensibilisation et dépistage au glaucome et d'autres pathologies oculaires. Pour la seule journée du 16 mars, 192 patients homo ont été consultés suite à la dangerosité du glaucome qui attaque les yeux sans présenter des symptômes. Les patients finissent par être frappé de la cécité qui est un aveuglement brusque. Le 25 mars, le virus de poliomyélite continue de circuler et un seul cas suffit pour déclarer une épidémie. Pour arriver à l'arrêt de la circulation du poliovirus, variant à RADC et dans la province du Sud Kivu en particulier, les médias sont invités à informer la population de l'organisation de la campagne des ripostes contre la poliomyélite. L'information est livrée par le docteur Nicole Mbayou du service de communication de la division provinciale de la santé lundi 25 mars lors d'une rencontre avec la presse locale organisée en collaboration avec Breakthrough Action, BA en sigle. Pour elle, la zone de santé d'Ouvira a déjà notifié un cas, ce qui montre que le renforcement de la surveillance dans les autres zones de santé peut déceler d'autres cas. Le docteur Nicole Mbayou fait savoir que la RDC occupe la troisième place après Pakistan et Afghanistan, en tant que pays au monde qui notifie encore des cas de poliomyélite. Pour cette année, plus d'un million d'enfants de 0 à 59 mois sont attendus. 37 zones de santé qui comptent la province sont concernées par cette campagne, ainsi que 662 aires de santé. Le 3 avril, le chef de bureau des informations sanitaires à la division provinciale de la santé, le docteur Justin Benguéria, annonce que la province du Sud Kivu a déjà enregistré 239 cas de la maladie de monkeypox ou varole des seins depuis octobre 2023. Le territoire de Mwenga, plus particulièrement à Kamituga, enregistre à lui seul 157 cas. Il ajoute que les malades bénéficient de la prise en charge gratuite grâce à l'accompagnement de l'Organisation mondiale de la santé. Le 4 avril, les personnels soignants et administratifs de la zone de santé de Kalehe au Sud Kivu demandent que leur prise en charge soit assurée par le gouvernement congolais à travers l'octroi des numéros matricules et leur mécanisation. Ils l'ont fait savoir dans un mémorandum adressé au gouvernement congolais et dans lesquels il signale que la gratuité des soins a été décrétée dans les territoires de Kalehe depuis octobre 2023, mais les mesures d'accompagnement n'ont pas suivi. Le 4 avril, les personnels soignants et administratifs de la zone de santé de Kalehe entament le mouvement des grèves dans l'objectif de réclamer l'octroi des numéros matricules et leur mécanisation. Ils demandent aussi au gouvernement provincial du Sud Kivu de rendre disponibles les médicaments essentiels pour la prise en charge effective de la population sinistrée. Le 7 avril, plusieurs structures de la société civile demandent au gouvernement congolais de prendre des mesures d'accompagnement pour la mise en œuvre de la couverture de la santé universelle au pays telle que décrétée par le président de la République. Ces structures font observer que plusieurs défis restent à relever pour gagner les plans de la couverture de la santé universelle sur l'étendue du territoire national.
Au sud Kivu, par exemple, ce pari est loin d'être gagné. Les manques d'infrastructures et équipements sanitaires répondant aux normes fixées par l'Organisation mondiale de la santé ou encore la non-prise en charge du personnel soignant restent parmi les défis majeurs. Le 8 avril, le médecin-chef des zones de santé de Nyangezi, Dr Amani Kamarati, annonce 5 cas suspects de monkeypox dans les groupements de Kamanyola en territoire de Walungu. Il invite la population à veiller au respect des mesures barrières en attendant les résultats des examens au laboratoire. Le 22 avril, le directeur du programme de lutte contre l'épidémie de la variole des singes en RDC insiste sur l'implication des prestataires de santé dans les groupements de Kamanyola, en territoire de Walungu, pour maîtriser cette épidémie dont des cas sont rapportés. Depuis le début du mois d'avril, avec actuellement une vingtaine de cas. Appel lancé lors d'une mission d'inspection effectuée dans cette partie de la province du Sud Kivu. Il a eu à remettre à niveau les responsables des structures sanitaires de la place sur la prise en charge de cette maladie. Le 17 avril, la grève déclenchée par les personnels soignants et administratifs de la santé de la zone de santé de Kalehe au sud Kivu impacte négativement sur la vie des patients et autres requérants des services de santé dans cette partie de la province. À l'hôpital général d'Iwoussi, une personne est morte par insuffisance des prises en charge dans la journée de mardi 16 avril, indique le bureau de la société civile de Kalehe. Le 26 avril, l'Union nationale des infirmiers et infirmières du Congo, Sud Kivu, continue d'exiger la régularisation de la situation de leurs membres dont les salaires sont payés à la banque BOA. Les 2 juin, 823 cas de monkeypox sont notifiés sur l'ensemble de la province du Sud Kivu, avec 8 décès depuis le mois d'octobre 2023. De ces cas, 519 sont notifiés dans les seuls territoires de Mwenga. Ces chiffres sont donnés par le docteur Claude Baïziré, chargé de communication de la division provinciale de la santé au sud Kivu. À l'en croire, la province notifie chaque semaine 70 à 80 cas de cette maladie qui se propage beaucoup plus par la contamination interhumaine. Le 9 juin, les habitants du groupement de Karongo-Nyangezi dans la zone de santé de Nyangezi en territoire de Walungu sont appelés au respect des mesures barrières prises par les autorités sanitaires pour se protéger et barrer la route à la maladie des monkeypox. Cet appel est du médecin chef des zones de santé de Nyangezi, Dr Olivier Kabarati, qui rappelle à la population que la zone de santé de Nyangezi a dépassé 100 cas confirmés de la maladie des monkeypox. Le 14 juin, les habitants du Sud Kivu, dont l'âge varie entre 18 et 65 ans, sont appelés à faire les dons des sangs en vue de sauver des vies. Les nécessités sont entre autres les accidentés qui ont perdu les sangs, les enfants drépanocytaires, les femmes qui viennent d'accoucher, des blessés de guerre et d'autres malades dont la pathologie nécessaire est la perfusion sanguine. Ce message du responsable de la banque des sangs à l'hôpital général de Panzi, le docteur Émile Mapatano, dans un entretien avec Radio Maindileo à l'occasion de la journée mondiale des dons de sang célébrée le 14 de chaque année. Le 17 juin, Flavien Charangabo Mutabesha, garde son poste de président du conseil d'administration de la mutuelle de santé de Bagira, réélu au terme d'une assemblée générale élective tenue dimanche 16 juin. Il est secondé par Guillaume Sota comme vice-président. Le 27 juin, le réseau des médias pour le développement Remède forme les prestataires de santé et les membres d'Ask Force du Sud Kivu sur l'approche du comportement centré sur l'humain en faveur de la vaccination des enfants de 0 dose, sous-dose et sous-vaccinés au Sud Kivu, renseigne docteur Dédié Chubaka du programme élargi de vaccination à la division provinciale de la santé. Ils sont capacités sur les maladies de poliomyélite, l'identification des enfants 0 dose et sous-vaccinés, la communication des risques et engagements communautaires autour de monkeypox et les choléra, mais également les changements de comportement. La même date, une maladie qui présente les mêmes signes que monkeypox s'est fait remarquer à Kavumu dans les groupements des Bougoré en territoire des Kabare, créant ainsi une psychose au sein de la population, alerte certains habitants de la place. Selon eux, plusieurs personnes présentent des signes semblables à ceux de la variole des singes et sont conduites dans des structures sanitaires de la place pour des examens approfondis. Mais jusque-là, aucune précision n'est donnée s'il s'agit de cette maladie. En septembre, le 4 septembre, l'hôpital général de Bagira est doté d'un nouveau bâtiment qui va abriter la maternité. La remise officielle de l'ouvrage, construit et équipé grâce au financement
financement du Fonds des Nations Unies pour les enfants UNICEF intervient le 4 septembre. Ce bâtiment comprend plusieurs compartiments, dont les bureaux, les salles des postes césariennes, une salle d'accouchement, une salle d'opération et une salle photothérapie. Néonatalène, la représentante adjointe de l'UNICEF en RDC, le docteur Mariam Silla, renseigne que la construction et l'équipement complet de cette maternité visent à améliorer les conditions de travail et assurer un environnement favorable aux femmes enceintes et nouveau-nés. Le 5 septembre, une feuille de route commune visant à renforcer la communication dans la lutte contre la poliomyélite est élaborée par les membres de la communication Renforcement et Engagement Communautaire, CREC. C'était à l'issue des assises des deux jours organisées par les réseaux des médias pour le développement Rémé dans sigle avec l'accompagnement de l'UNICEF et l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS. L'objectif est de mobiliser l'ensemble de la population et d'atteindre une couverture vaccinale maximale, explique les chefs d'antenne du REMED au Sud Kivu, Honoré Pacom Bissimwa. Cette feuille de route parle de la mobilisation communautaire et de l'amélioration de la communication autour de la vaccination contre la poliomyélite. Le 8 septembre, au moins 80% des habitants du Sud Kivu sont exposés au problème de la lombalgie ou mal des dos par manque d'activité physique. Cette révélation est donnée dimanche 8 septembre à l'occasion de la commémoration du 26e anniversaire de la Journée mondiale de la physiothérapie. Pour le vice-président de l'Union des kinésithérapeutes du Congo, Jean-Luc Mobila, la population du Sud Kivu devrait éviter les ports des charges brisques et à bien se comporter en adoptant la station debout normale, la position assise et couchée normale pour se protéger de la lombalgie. Selon lui, la lombalgie reste un problème de santé publique et l'avancement en âge constitue un facteur de risque. Le 12 septembre, Dr Claude Baïziré, président du pilier communication pour les changements, CREC, annonce que les premières doses du vaccin de Monkeypox arrivent entre les 15 et les 22 septembre. Il le dit lors d'un entretien avec Radio Maindeleo. Le 16 octobre, après la circulation des rumeurs sur les réseaux sociaux sur un probable détournement des fonds destinés à l'achat des médicaments contre les Monkeypox, la division nie ces allégations et précise qu'il n'y a eu aucun détournement des fonds. Lors d'un entretien avec Radio Maindeleo, le chef des bureaux ressources à la division provinciale de la santé, Claude Wilonja, souligne que la division ne reçoit pas l'argent pour l'achat des médicaments. Ce sont plutôt les partenaires eux-mêmes qui les achètent pour être acheminés par la suite dans les zones de santé concernées. Le 19 septembre, les médecins, les anciens de l'université officielle de Bukavu, s'insurgent contre la mesure du secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire SU, demandant à leur institution de formation d'octroyer des diplômes aux anciens étudiants de l'université Biosadek. Dans une série de correspondances adressées à plusieurs autorités, tant au niveau national que provincial, ces anciens expriment leur crainte de voir l'IOB délivrer des diplômes de docteur en médecine à des personnes auxquelles l'institution n'a soumis à une quelconque évaluation. Le 24 septembre, les chargés de la communication à la division provinciale de la santé, le docteur Claude Baïziré, annonce que la campagne contre la varole des singes dans la Provence sera lancée le 11 octobre. Pour la première étape, 3 zones de santé sur les 32 touchées par l'épidémie sont propriétaires. Il s'agit de Kamituga, Nyangezi et Uvira. Il est dit dans un entretien avec Radio Maindeleo, tout en ajoutant que les personnes les plus ciblées sont les enfants de moins de 17 ans, les professionnels de santé et tous ceux qui ont eu des contacts avec les malades, comme les gardes malades, dont le nombre sera déterminé par les zones de santé. Le 25 septembre, l'autorité sanitaire de la zone de santé lève l'équivoque sur les rumeurs qui circulent sur l'épidémie de diarrhée dans la zone de santé de Mulungu. Il parle plutôt des 3 décès par intoxication à Nyombe, dans les groupements de Bamiguba Sud, en territoire de Chabunda. Elle appelle la population au calme car la situation est sous contrôle. La même date, le gouvernement provincial du Sud Kivu reçoit un lot de médicaments de la part de l'Organisation mondiale de la santé. Ces médicaments vont intervenir dans la prise en charge des malades de Monkeypox. Les représentants de l'OMS expliquent que ces médicaments sont constitués de matériel pour la prévention et le contrôle des infections, des matériels des laboratoires ainsi que la machine. Le 27 septembre, 60 relais communautaires venus des 12 aires de santé de Nyangezi sont formés sur la maladie de la varole des singes, communément appelée Mpox. Le médecin chef des zones de santé de Nyangezi, Dr Olivier Kabarati,
précise qu'il s'agit d'une formation des formateurs qui, de leur part, iront former d'autres membres de la communauté sur les gestes et barrières contre cette maladie dont actuellement plus de 1400 personnes dans la zone de santé de Nyangezi sont atteintes. Le même 27 septembre, les infirmiers qui exercent à la prison centrale de Bukavu menacent d'entamer les mouvements de grève. Ils dénoncent le non-paiement de leurs primes de risque depuis le mois d'avril dernier. Dans une correspondance adressée au chef de la division provinciale de la santé au Sud Kivu, les signataires rapportent que leur situation n'a pas encore été régularisée depuis la bancarisation de la paye des infirmiers. Octobre, le 6 octobre, le lancement officiel de la campagne de vaccination contre les monkeypox intervient à Kamanyola dans la zone de santé de Nyangezi. Les habitants sont appelés à s'approprier cette opportunité pour couper la chaîne de contamination de cette épidémie qui sévit dans cette partie de la province du Sud Kivu depuis avril dernier avec 1400 cas seulement à Kamanyola. La même date, le directeur des cabinets du ministre national de la Santé, Dr Mumboyai Chikaya Romain, lance la campagne de vaccination contre la maladie des varoles des singes ou monkeypox. Les cérémonies se sont déroulées au site de CRSN Luiro dans la zone de santé de Mitimoresa. Plus de 47 000 personnes sont concernées. Le 14 octobre, Dr Claude Baizire, chargé de communication à la division provinciale de la santé, annonce qu'au moins 7500 personnes sont guéries de la maladie des monkeypox sur plus de 8400 cas notifiés depuis le début de l'année 2024 à travers les 32 zones de santé touchées sur les 34 que compte la province du Sud Kivu. Selon lui, bien que les taux de létalité soient faibles, soit 0,6% avec 45 décès, le seul moyen de se protéger de cette maladie reste la vaccination, mais aussi le respect des mesures sanitaires telles que le lavage régulier des mains. Le 24 octobre, début de la troisième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans les zones de santé que compte la province du Sud Kivu. À Mwenga, par exemple, c'est le maire de la ville Alexandre Bungia Mpila qui donne le go, tandis qu'à Nyangezi, c'est le ministre provincial de la Santé qui lance officiellement la campagne. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette rétrospective annuelle consacrée à la santé. Merci à vous tous de m'avoir suivi. Nous avons quelques communiqués dans cette édition. Le bourgmestre de la commune d'Ibanda, Madame Fura Toto Safari Chimanuka, porte à la connaissance de la population de sa juridiction. Les habitants de la ville de Bukavu, province du Sud, que vous et population, tant nationale qu'internationale, sur le changement du spécimen du sceau de la commune d'Ibanda à dater de ces jours. Cela étant, tous les documents sortis à dater de la signature de ces présents communiqués portent le nouveau spécimen. Après la remise de l'ancien à la division provinciale de la justice et garde des sceaux pour le fonctionnement sans faille de l'entité, l'autorité communale informe l'opinion que désormais la commune d'Ibanda scelle des documents avec un sceau électrique. Il faut souligner par la même occasion que les modèles de certains imprimés des valeurs, notamment la taxe revendeur, la taxe de l'assainissement et la quittance ETD, est également concernée par les changements pour le bon fonctionnement administratif et de l'entité communale d'Ibanda. Les bourgmestres de la commune d'Ibanda, Madame Fura Toto Safari Chimanuka, signent ces communiqués. Communiqué de presse de la grande famille du Mwami Alexandre Kabare Rugemani Zedi 00 à l'occasion de la célébration du 21e anniversaire de la mort de la Mwami Kazi Marina Nabintu Mwa Malekera. À l'occasion de la célébration du 21e anniversaire de la mort de la Mwami Kazi Marina Nabintu Mwa Malekera, décédée le 28 décembre 2003, les filles, les fils, petites filles et petits-fils de la grande famille du Mwami Alexandre Kabare Rugemani Zedi 00 se sont rendus samedi 28 décembre 2024 à Chituzo Mudaka où se trouve le mausolée de la Mwami Kazi. À Chituzo Mudaka, tout comme à la résidence familiale située sur l'avenue de la résidence en commune d'Ibanda, ils se sont retrouvés pour communier et se rappeler des bonnes œuvres de leur mère et grand-mère. La Mwami Kazi, Marina Nabintu Mwamalekera, à cette occasion et pour continuer à honorer la mémoire de leurs parents et grands-parents, à savoir les Mwami Alexandre Kabare Rugemanizi 1000 et la Mwami Kazi Marina Nabintu Mwamalekera, les filles, les fils
les petites filles et petits-fils se sont décidés de créer une fondation culturelle dénommée Fondation Alexandre Marina Kabare, en sigle Fondation Alma Kabare, qui se fixe comme objectif principal l'enseignement des valeurs culturelles du Bushi, de l'histoire du Bushi, des principes du patriotisme et des fondements de l'entrepreneuriat et de la solidarité, les modes de vie de Sa Majesté le Moami Alexandre Kabare Rugemani Zidi 00 et de la reine Marina Nabintu Mwamalekera sera source d'inspiration par rapport à toutes les activités à mener. Il faut nécessairement une œuvre pour immortaliser les actions de la personne du Moami 00 et de la Moami Kazi Marina dans un monde où les antivalères, les intrigues, les inimitiés, les mensonges, les luttes fratricides et plusieurs cas d'acculturation ont été et continuent à être institutionnalisés faute de modèles ou de références à imiter. Pour la grande famille, Antoinette Fora Kabare, Christelle Kabare, Angélique Kinja Kabare, Sinse Communiqué. Le bureau directeur de l'association des revendeurs des carburants et lubrifiants de Bougoré Kavumu invite ses membres des axes Langa, Monument 1 et 2, Kavumu Centre, Karanda, Kacheni, Luiro, Bidagara, Fomilac et Kaliba de participer à leur assemblée générale qui se tient ce mardi 31 décembre à 7h à leur siège se trouvant au rond-point Monument Kavumu en venant chacun avec son couple pour clôturer ensemble l'année. Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d'année. Chance Luboula, président Mouroula Rouembe, Kennedy, secrétaire Charles Kachiko, secrétaire adjoint Bonekoube Philippe, conseiller Safari Masirika Oscar, conseiller aussi Sinse Communiqué. Message de vœux de l'honorable Kinja Mwendanga Béatrice, chers compatriotes du Sud Kivu, chers électeurs de la ville de Bukavu, à l'aube de cette nouvelle année 2025, je tiens à vous adresser mes vœux les plus sincères de santé, de prospérité et de paix, que cette année soit synonyme de renouveau et d'espoir. Pour chacun d'entre vous, nous avons traversé ensemble des moments, des défis et des preuves, mais aussi des solidarités et des déterminations. En tant que votre député provincial, je suis résolu à continuer de travailler à vos côtés pour améliorer notre cadre de vie, promouvoir le développement de notre belle province et défendre vos préoccupations. Je vous encourage à garder espoir et à œuvrer ensemble pour bâtir un Sud que vous unis et prospère. Votre engagement et votre participation sont essentiels pour faire entendre notre voix et construire un avenir meilleur pour nos enfants. Ensemble, faisons de 2025 une année de succès et de réalisation pour notre communauté. Je vous souhaite à tous une année remplie de joie, d'amour et de succès. Avec toute ma considération et mon engagement, Kinja Mwendanga Béatrice, députée provinciale élue de la ville de Bukavu, signe ses communiqués. Il est 7h juste dans les studios de Radio Maïndéléo. C'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Hélène Boudjiriri, c'est mon nom. Émile Mouindo sur la mise en onde. Je voulais suivre cette édition dans sa version Swahili avec Ricky Yombeni.